Et je vous invite de tourner Hébreux chapitre 6, verset 9. Si vous êtes ici la dernière fois, et ça date depuis 3 semaines, je crois que nous avons pu être dans le livre de Hébreux, vous vous rappellerez peut-être le passage le plus solennel, effrayant même pour beaucoup, dans toute la Bible, probablement. Et puis, mon intention, c'était d'aller jusqu'à verset 20 plutôt que 12. Et le titre du message, dernièrement, était « Impossible de repentir ». Vous vous rappelez de cela? Qui vient de verset 4 à 8. Et le titre que j'avais pour aujourd'hui, que j'ai changé parce que je ne vais pas aller jusqu'à verset 20, c'était impossible de échouer, impossible à l'échec. Et nous avons vu dans ces versets, si vous avez vos Bibles ouvertes, Hébreux chapitre 6, nous avons vu une possibilité très très sérieuse. Et puis nous pouvons regarder en arrière, personnellement, à plein de choses, expériences religieuses. Il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, pour dire, je sais que je suis sauvé parce qu'il y avait ça, et ça, et ça. Et ce passage détruit cette mentalité. Il n'y a aucune expérience religieuse qui garantit notre salut. Et ça peut être démontré à travers la parole de Dieu. Les gens qui ont eu des expériences, et nous avons même vu, dans verset 4, des gens éclairés, les gens qui ont goûté le don céleste, les gens qui ont eu part du Saint-Esprit, les gens qui ont goûté de la bonne parole de Dieu, les gens qui ont goûté les puissances des siècles à venir. Il n'y a aucune liste d'expériences chrétiennes plus claires que celui-ci. Et pourtant, ce n'est pas ces expériences qui sauvent. Et ça, c'est une des choses que l'apôtre veut que nous comprenions. S'il n'y a aucune expérience, une expérience qui peut être une évidence de vrais fruits, mais attention, ça ne sauve pas. Et combien il est facile de changer nos perspectives, nos yeux fixes sur le Seigneur, et puis après une expérience incroyable ici ou là, nos yeux ne sont plus là, ils sont sur ce don, sur cette capacité, sur cette expérience qui prouve que je ne peux pas être perdu. Et comme nous croyons qu'une fois sauvé, toujours sauvé, eh bien, ça y est. Et combien de fois est-ce que vous êtes tombé dans ce piège, comme moi, à travers les années, de dire, bon, tant pis pour hier, bon, j'aurais pas dû faire ça, mais bon, j'ai eu cette expérience-là, la preuve que je suis sauvé, je ne peux pas perdre mon salut, ça y est. Et puis, je m'en vais à demain, sans régler quoi que ce soit. Et petit à petit, les soucis de ce monde, les choses qui interviennent des intérêts hors Dieu, deviennent de plus en plus brillantes. Dieu et sa lumière deviennent de moins en moins brillantes, et la Bible devient de plus en plus dégoûtante. Mais quand même, j'ai eu ça. J'ai eu ça. Et il ne m'intéresse pas à autre chose, juste cette expérience, parce que, en fin de compte, tout le monde doit mourir. Je veux mon billet pour le ciel, c'est ça qui m'intéresse, et rien de tout. Ce n'est pas une mentalité de celui qui a le vrai. Nous n'avons pas ici, parce que l'apôtre Paul, dans la deuxième personne du pluriel, vous, il adresse toute l'Église. Il n'est pas en train de dire, vous êtes tous devenus des apostats, vous êtes tous sans Christ, vous allez tous aller à l'enfer. Non, non, non. Parce que ce n'est pas le cas. Mais il adresse l'Église parce que la possibilité est toujours là. La possibilité que quelques-uns dans des églises, dans cette église, dans n'importe quelle église, quelques-uns soient perdus. Ils ont appris le rythme de l'église, le vocabulaire de la prière, la mentalité de la famille, et puis ils sont bien installés. Et il n'y a rien à l'extérieur qui sépare cette personne de qui que ce soit. Dieu le sait. Donc, le grand avertissement que l'apôtre donne, que nous avons vu, est impossible pour que ceux qui, ayant été éclairés, goûté le don céleste, eu part du Saint-Esprit, goûté de la bonne parole, les puissances du siècle à venir, s'y tombent d'être amenés à la repentance, puisqu'il a crucifié pour son par le Fils de Dieu, l'exposant à l'ignominie. Nous avons traité ceci. Ce passage devrait nous faire consterner. Je tremble pour la personne qui dit « Bon, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas moi. » Aucune personne ne devrait dire ça. Surtout avec cette nonchalance, ça devrait nous concerner. Ça veut dire tout simplement la possibilité de quelqu'un de penser qu'il n'est pas, il est sauvé et de continuer gaiement sur sa vie quotidienne sans rien de considérer. Oh, combien de gens, oui, j'ai parlé en langue, je suis sauvé, il n'y a aucun intérêt maintenant dans les choses de Dieu. Mais parce que il est enseigné, un homme ne peut pas parler en langue, à moins qu'il soit bien sauvé, il est bien. Avez-vous entendu ça? Moi aussi. Alors, l'apôtre veut nous avertir. Cette possibilité est toujours là. L'abîme en quoi quelqu'un peut tomber existe au centre de cette église et de n'importe quelle église. Mais ayant dit ça, ayant dit tout ça, il dit, je ne crois pas que ça parle de vous. Alors encore, deuxième personne plurielle, universellement appliquée, le premier passage, deuxième personne du pluriel, universellement appliquée, et maintenant, crois que nous parlions ainsi, bien-aimés. Nous attendons pour que vous, ce que vous concerne, des choses meilleures, des choses favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. C'est quoi cette œuvre? Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Le livre Hébreux existe pour fortifier une pleine espérance, pas pour nous terrifier, au contraire. En sorte que vous ne vous relâchiez point, oh oh, hésitation, inquiétude, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. C'est la parole de Dieu. Dieu vient de parler à travers ceci. Alors, ce que j'ai vu, ce passage, puisque je me suis dit, je ne peux pas du tout aller jusqu'à verset 20. Les richesses qui sortaient de ce passage, mot après mot, après mot, après mot, me faisaient que je devrais faire 3 ou 4 semaines sur que ce passage. Et je ne peux pas. Je veux juste noter un mot dans chacun de ces versets, enfin de quatre versets, cinq mots, il y a une conviction ici. Il y a dans le deuxième verset, c'est-à-dire verset 10, une observation et puis une conclusion donc. Et puis il y a verset 3, un désir exprimé. Et verset 12, A et B, une tendance inquiétante et une stratégie corrective. On voit dans ce verset. Peut-être on peut dire comme ceci, il y a une conviction à l'intérieur de l'apôtre, et on parlait avec des mots très, très, très sérieux et sévères même. Il a dit, par contre, j'ai une conviction, ce n'est pas cherchant à être politiquement correct pour que il cherche à dire autre chose pour que ça calme les eaux. Des gens qui disent, qui est toi qui ose parler à nous, une église, comme ça? Non, il y a une conviction intérieure, fondée sur une observation perceptible, ça c'est en verset 10, qui envisage donc une conclusion. Alors, il y a une séquence ici, dans l'autre sens. Il a une conviction, pas juste dans le vide, mais qui est basée sur quelque chose, une observation perceptible et qui envisage une conclusion, et puis ça provoque un ardent désir. Alors, une chose qui se fait, bon, ça c'est un peut-être je ne devrais pas aller dans le monde très mondain comme du sport, mais quand il y a une équipe de foot qui est 5-0, 10 minutes avant la fin du match, ils sont de moins en moins motivés. Mais quand il y a un but, et puis un deuxième, puis un troisième, et un quatrième, maintenant c'est 4-5, eh ben, ils prennent courage, n'est-ce pas? Et donc, il y a un feu qui s'allume, et ils risquent de gagner même. Bon, oubliez cette illustration. Mais c'est une observation qui provoque, qui fait allumer un désir que si 4 à 8 était totalement le cas pour tout le monde, ce désir ne serait pas évident du tout. Ce sera une petite flamme qui risque de ne jamais être réalisée. Non, non, non. Ceux qui voient maintenant, il y a quelque chose qui se réalise. Et ça provoque un ardent désir que Dieu permette. Ça, c'est un verset solennel. Regardez verset 3. Nous allons avancer. Verset 1 et 2 et 3. Laissez les choses éléments de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire vous avez appris les tables de multiplication biblique. Alors, gardez-les bien. Vous savez que 9, 9 égale à 81. Vous savez tout ça? Allez en avance. Vers algèbre, géométrie, et plus loin, ce que j'ai pas fait. Je connais les tables de multiplication, ma connaissance mathématique arrête là, presque. Mais, bibliquement, ça c'est fatal, ça c'est terrible. Allez en avance, dit-il, verset 1, et tendons vers ce qui est parfait, complet, qui continue, sans poser de nouveau de fondement. Ne répétez pas tous les jours juste les tables de multiplication jusqu'à ce que ça sorte comme un perroquet. Les tables de multiplication sont très importantes. Les bases élémentaires et fondamentales de la foi chrétienne sont tellement importantes et riches, on ne peut pas ne pas penser sur ça régulièrement. Enfin, plonger plus profond dans les éléments élémentaires. Mais allons en avance, c'est paradoxal, dans la descente dans la profondeur des richesses de ce que nous avons posé comme fondement. C'est ce qu'il a dit, de foi en Dieu, etc. Et puis il donnait les six six choses. Et puis, il dit, verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Si Dieu le permet, qui veut dire, il se peut que Dieu ne le permet pas. Pourquoi? Parce qu'il est impossible. Et puis, ce que nous venons de lire à partir de verset 4. Si Dieu le permet, c'est pourquoi j'ai mis verset 3 ici. Il est allumé dans son cœur un désir ardent que Dieu va permettre. Parce qu'il y a de l'évidence que Dieu va permettre qu'il puisse persévérer et aller et conserver la foi jusqu'à la fin. Mais attention, il y a une tendance qui est très inquiétante, mais il y a aussi une stratégie utile dans ce deuxième verset. Vous voyez pourquoi je ne peux pas aller plus loin que cela. De voir juste ces cinq choses, ça va aller jusqu'à 3 heures cet après-midi. Non, on va arrêter alors. Mais voilà, les choses que nous voulons voir. Regardez le premier verset. Une conjonction de contraste. Quoique nous parlions ainsi, oui, nous avons parlé avec une sévérité incroyable, mais quoique nous parlions comme ça, nous sommes persuadés. J'ai mis la version Darby parce que je voulais le mot persuadé. Dans l'autre, j'ai mis le second que vous avez peut-être. Nous sommes persuadés. C'est pas intuitif, c'est pas juste une espérance dans le vide. C'est une persuasion basée sur beaucoup d'années d'expérience, basée sur la parole de Dieu, basée sur sa compréhension de l'œuvre de Dieu dans le cœur des autres. Je suis persuadé en ce qui vous concerne, bien-aimé. Faut pas sauter au-dessus de bien-aimé. C'est une chose où il parle avec grand amour. Versets 4 à 8 sont des paroles d'amour. Versets 9 à 12, ce sont aussi des paroles d'amour. Et en tant que parent, vous savez que parfois, l'amour doit être sévère. Parfois, très sévère. Parce que l'amour exige de neutraliser les choses qui peuvent même menacer la raison d'être de l'amour, même la personne entièrement. C'est ce qui est en train de parler, sans mélanger les mots politiquement corrects. Sachant qu'il y aura toujours la possibilité que les gens indignants vont dire « Qui es-tu de parler comme ça ? Applique ça à toi-même, hein ? Pourquoi tu me parles comme ça ? Tu vois comme si nous ne sommes pas chrétiens ? Nous sommes des membres de l'Église. On est dans l'Église depuis toute notre... Et on était baptisés dans cette salle. On était... Et on a grandi. Et qui es-tu de parler comme ça ? Et donc, dans beaucoup des églises, ils n'en parlent pas comme ça. Il n'ose pas. L'apôtre osait. Et puis il dit, bien-aimé, vous qui sont les objets de mon amour, sachez, je n'ai dit aucun mot qui n'est sorti de ma bouche, qui n'était pas le fruit d'amour. Et ce qui va suivre, nous sommes convaincus des choses meilleures et qui tiennent au salut par rapport à vous. Donc, c'est une conviction intérieure. Et nous avons donc ce verset, c'est une déclaration d'espérance. Attention, le mot espérance dans la Bible n'est pas juste un désir dans le vide qui peut ou peut pas arriver, mais c'est un fruit de la foi posé dans l'Évangile, qui regarde vers l'avenir, parce qu'on n'espère rien dans le passé. On espère pour l'avenir. L'espérance est toujours à venir. L'espérance, c'est la foi à venir. On voit quelque chose fixe, mais futur. Pas réalisé, mais sûr. Un héritage. Un frère riche, qui a établi un compte bancaire au ciel. Est garanti qu'on va le trouver et toucher. C'est pas l'argent comme ici, cet argent ici devient comme l'argent de Monopoly à la mort, ça n'achète rien de valeur. On n'amène aucun sou avec nous dans l'avenir. Une déclaration d'une espérance qui touche l'avenir, et puis une observation, conclusion, verset 10. Vous le voyez, leur service aux saints, ça c'est curieux. En fin de compte, pour moi c'était un peu surprenant qu'il attaque le sujet de cette manière, où il dit, nous attendons les meilleures choses, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore, passé, présent, ça continue, des services aux saints. Alors, quel était leur état? Nous avons dit beaucoup de fois, parce que ça fait 6-7 mois depuis que nous avons commencé Hébreu, historiquement, le contexte politique, historique, c'était tension, pression, même persécution, où les gens se reculent un peu, peut-être dans notre zèle de la jeunesse, on était un peu trop fanatique, peut-être il faut se taire un peu. Il faut reculer. Peut-être Christ, oui, on est des juifs messianiques. Enfin, c'était des juifs. On est les hébreux messianiques, mais peut-être cette idée de l'incarnation, de la divinité était un peu trop exagérée. Peut-être il faut juste rentrer doucement, pas forcément de la même manière avant, mais au système mosaïque, pour entrer dans leur cérémonie, ce que nous connaissions très très bien avant, et puis continuer comme ça, toujours avec un respect du chapeau au Jésus, mais plus comme avant. Il y avait cette tendance. Et il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Alors, deux grandes surprises ici pour moi. Pour oublier votre travail, ils avaient travaillé, ils avaient manifesté. Enfin, plus loin, nous allons voir un chapitre 10. Ça c'est loin, n'est-ce pas? En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Il parle aux gens qui sont en train de vaciller dans leur foi un peu, mais qui risquent que le un peu devienne de plus en plus. Déjà des signes. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos besoins, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Dans notre texte que vous avez vu quand vous êtes entré ce matin, heureux celui qui trouve dans le parvis, le temple de l'Éternel, c'est là où est, et notre texte ici, c'était bonheur, mais d'autres textes, ils disaient, c'est là où se trouvent les biens, les vrais biens. Les biens qu'ils avaient vus meilleurs, signe de leur, de la véracité, authenticité de leur foi en Christ. C'était, ils avaient remplacé les biens qui étaient primordiaux pour eux, pour un bien qui est maintenant primordial, et bien évidemment maintenant, parce que l'Esprit de Christ en moi témoigne à ce fait, dit dans la Bible, que les biens devant moi maintenant n'est rien comparé avec les biens que j'avais considérés comme absolument passionnants et nécessaires. Et alors, les biens meilleurs, ils avaient sacrifié leurs biens. La Bible dit, dans ce même passage, ils sont allés vers ceux qui étaient emprisonnés, pour se mettre à côté d'eux, pour passer de quoi manger à travers les barreaux, pour être visés par des personnes qui voyaient qu'ils s'identifiaient avec les gens qui souffraient. et qui allait envoyer des gens chez eux et mettait leurs biens en flamme pour que quand ils regardent en arrière, notre maison, tous nos biens, c'est fini. Ce n'est pas grave, on a des biens meilleurs. C'était ces gens adressés ici, ils pratiquaient ça, ils vivaient ça, ils n'hésitaient pas dans ceci. Il a certainement ça dans sa tête quand il parle de cela. En effet, vous avez eu de la compassion pour des prisonniers, vous les avez acceptés avec joie, l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent pour toujours. Ça, c'est surprenant. Le travail est donné comme une base de leur salut. Ce qui est encore plus surprenant pour moi, c'est que cette observation, cette conclusion est basée sur la justice de Dieu. De la justice de Dieu. Et je l'ai divisé en quatre lignes pour voir les quatre idées. Dieu n'est pas injuste. N'êtes-vous pas surpris par ce mot injuste? Parce que, personnellement, j'aurais pensé, Dieu n'est pas sans miséricorde. On est sauvé parce que Dieu est miséricordieux. Et si je suis en train de vaciller maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? La justice de Dieu ou la miséricorde de Dieu? Moi, je veux la miséricorde de Dieu et miséricorde sur moi, pécheur. Mais il base ceci sur la justice de Dieu. Dieu n'est pas injuste. Une proposition grammaticale. Deuxième, Dieu n'oublie pas votre travail. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Troisième chose, qu'est-ce qu'il n'est pas injuste pour oublier non plus? L'amour que vous avez montré pour son nom. Et tout à l'heure, je l'avais dit, ce n'est pas le mot D-I-E-U ou G-E-S-U-S, C-H-R-I-S-T, pas ces lettres combinées pour mettre sur un bout de papier devant le quoi on se prosterne. Le nom de Dieu, c'est le Dieu de ce nom. Dieu n'est pas oublié que ce que vous avez fait était fait encore dans le service culte interchangeablement très souvent, c'est pas toujours mais presque, le culte au sein. Qu'est-ce que c'est ça? Dieu n'est pas oubliant. Si oui, il serait injuste. Il se rappelle de ce que vous avez fait. Rappelez-vous quand Jésus a été posé une question par un avocat, quelle est le meilleure loi? Quelle est la loi primordiale? Il y avait 613. Il y avait 613 lois des Juifs, ils disputaient, ils faisaient des débats publics, privés, pour mettre en ordre d'importance, le moins important jusque le plus important. Quelle est votre opinion, monsieur le charpentier de Nazareth? Quelle est votre opinion? Et Jésus a dit, vous le savez, n'est-ce pas? Il n'y a que deux commandements. Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Citation directe de Deutéronome, que tout le monde le savait. Surtout ses détracteurs. Et voici un deuxième, attaché au premier, indétachable si vous voulez. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus que ceux-là. Jésus dit, il n'y a pas que ça. Ici contient la justice de Dieu. Dieu nous a sauvés pour nous donner justice. Mais il a donné la justice méritée à son Fils. Il a donné la justice transférée aux croyants. Jésus-Christ a transféré ses activités de justice au compte bancaire céleste de Robert et de ceux qui croient. Et alors, si Robert aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées, et si Robert, à 100% aussi, aimait prochaine, Robert n'a pas besoin de la croix du calvaire, parce que Robert a réussi d'arriver à la justice parfaite à travers ces deux lois. Connaissez-vous une personne sur la planète qui est 100% ici et 100% là? Si vous le savez, donnez-moi son email, j'aimerais bien les écrire. 50-50 même? 90? 10? Non, 100% zéro. Vous n'avez fait aucune œuvre qui était 100% justice. Aucune! Qui n'était pas mélangée avec l'injustice de vous-même, de votre égocentrisme. Aucune. Et c'est pour cela que pour beaucoup de gens, ils cherchent, oui, je fais des mauvais, mais je fais des bien quand même. Oui, peut-être plus de mauvais que bien, mais je vais aller à l'église 10 fois sans louper pour que je puisse dépasser en justice mes injustices. Et puis les gens vivent comme ça dans la tête. Et ils pensent, parce que c'est eux le juge, si c'est moi le juge, je peux quand même faire comme je veux pour que ma justice dépasse un tout petit peu quand même mon injustice. Oui, oui, je fais ça, mais ben bon, je fais quand même ça. Un des grands papes qui avait tué beaucoup de personnes, un des grands rois en France, comment on appelle, qui luttait, Louis, je ne sais pas. Qui disait, oui, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, mais quand même, j'ai fait beaucoup de messes, et j'ai contribué beaucoup d'argent, et j'ai fait beaucoup de choses. Je suis pas un bon chrétien, mais quand même, avec tout ce que j'ai fait en préparation pour la mort, avec mon argent et tout ça, je crois que Dieu va m'accepter. Ce n'est pas différent que la mentalité des gens tout autour de vous, ou qui se voient religieux. Ce n'est pas différent que la mentalité qui s'investit même en nous-mêmes, qui pénètre par nature en nous-mêmes, en cherchant d'égaliser les comptes pour que je mérite l'approbation de Dieu. En fin de compte, ce verset ici, verset 7, est utilisé. C'est utilisé par l'Église catholique, verset 10, pour enseigner, il faut que vous fassiez des œuvres humanitaires, altruistes, afin que Dieu puisse ne pas être injuste, parce qu'il va voir l'autre liste de œuvres faites. Il y a des gens qui emploient ce verset 10 pour justifier une interprétation qui dit « Je mérite. Dieu est juste parce qu'il regarde mes mérites, il m'accepte. » Et nous savons en tant que chrétiens que ce n'est pas du tout le cas. C'est l'inverse qui est le cas. Ceci n'est pas un fait avec nous. Par contre, il y avait des chrétiens avec qui Christ a dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, ils ne perdront point leur récompense. Ces petits. Est-ce qu'il y a un de ces petits ici? Levez la main. Je suis le seul petit de Jésus. Je suis le seul disciple de Jésus. S'il vous plaît, on doit deux ou trois. Bon, on est trois maintenant. On est quatre. Encore, il y a d'autres. Il y en a plus, mais pas assez. Et Jésus a aussi dit, quand il disait aux gens, quand est-ce que nous avons te traité comme ça? Quand est-ce que nous avons sauvé, visité en prison? Quand est-ce que nous avons donné à manger? Quand est-ce que nous avons donné à boire? Et il dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les aviez fait. Nous sommes en train de sortir d'une deuxième dimension que le monde pratique, humanitaire les uns envers les autres, à une troisième dimension, si je peux utiliser simplement purement métaphorique, pour dire que les motivations des chrétiens pour servir les uns les autres et ceux qui souffrent ne sont pas naturelles. Oui, il y a cette motivation naturelle, mais en tant que chrétien, quand l'agape ou l'agapé, on a parlé de ça dans la réunion de couple vendredi soir, on avait 6 couples, l'agape, amour, pas dans les deux sens, sens unique, l'agape, sens unique, l'amour de Dieu, aime sans condition. On est en train de parler sur la vie conjugale. Quand une jeune femme se met devant le public, les témoins, devant monsieur le maire, ou que ce soit le pasteur, que ce soit qui que ce soit, et puis elle promet, bon, je sais que ils ont diminué et dilué maintenant, mais ce que dans un mariage chrétien, une promesse publique du cœur, on espère, de vous aimer peu importe, sans condition, mon amour pour toi est sens unique, inconditionnel, fais ce que tu veux, tu peux pas m'arrêter de t'aimer. Pourquoi? Parce que je ressente quoi que ce soit? Non, parce que j'ai promis. Parce que j'ai promis. Parce que j'ai signé une alliance. Oh, les émotions vont aller du haut et du bas. Et l'envers, c'est le cas. Le mari tourne vers sa femme. Mon amour pour toi est sens unique. Tu ne peux rien faire. Fais ce que tu veux. Je t'aime. Point final. Parce que mes émotions en train de... Envie de t'embrasser. Non, je n'ai pas envie du tout parfois de t'embrasser. Mais j'ai promis de chercher ton bien-être jusqu'à la fin. Christ a donné cet amour. Et quand il place cet amour en nous, d'abord pour lui, et instantanément les uns pour les autres, inéchappablement, il existe. Oh oui, à côté de notre égocentrisme qui est toujours là, et qui nous déçoit de temps en temps, et où on est frustré parfois de voir notre égocentrisme. Mais il est là. Et Dieu nous fait grandir dans notre foi et dans notre amour. Et nous nous trouvons en train, presque instinctivement, de aller vers ceux qui aiment le Seigneur comme nous aimons le Seigneur avec tous nos hauts et nos bas. Un signe, c'est pas une preuve, mais c'est un signe, c'est une évidence. Et il y a de la vie, il y a de la vie. Ça enflamme un désir. Si la vie est là, oui, il vit encore. Allez, avec l'autre chose pour qu'il vive. Il ne meurt pas. On a cette insistance, cette intensité. Et donc, Jésus a basé, l'apôtre base ceci sur la justice de Dieu, il faut que l'on dise. Dieu ne regarde pas à leur justice méritable de leur activité. Mais Dieu voit, il est marqué, amour pour le nom de Dieu, associé avec leur travail. Et la justice de Dieu qui a été réglée pour l'homme à la croix déclenche, parce qu'il voit la justice de Dieu en train d'agir malgré les défauts. La justice de Dieu est bien évidente. Et l'apôtre qui n'est pas Dieu, qui ne sait pas tout et qui peut se tromper quand même en tant qu'un être humain, pas en tant que la parole de Dieu, je le sais, mais en tant il croit aussi de voir la même chose. Il croit que Dieu voit ça. Et donc, lui, il est motivé de nouveau. Tout n'est pas perdu. Au contraire, il y a de l'espérance. Et c'est ça, la justice de Dieu. On est juste, on reçoit la justice de Dieu parce que Dieu et son nom est mis sur le tribunal et visé, examiné pour prouver que c'est la justice attribuée à ces petits, à ces enfants, à ces disciples. Il y a un désir ardent qui est provoqué. Et ça, c'est verset 9. Alors, cela étant le cas, nous désirons que chacun de vous, fasse preuve ou donne l'évidence du même zèle, plutôt une question de qualité que de quantité, parce que tout le monde est zélé pour quelque chose. Tout le monde a un zèle de ne pas sortir du lit et de dormir toute la journée, un zèle de vivre d'une vie de paresse, mais tout le monde est zélé pour quelque chose. Mais ce n'est pas la quantité de zèle, c'est une qualité, et bien sûr, il y aura une quantité aussi qui va augmenter, mais le même zèle. Alors, voyant ce que je vois, qui pour moi donne l'impression que vous êtes les vrais chrétiens, vous êtes en train de risquer votre vie. Attention, attention, attention! J'ai risqué ma vie pour ce chrétien. Ah! Dieu doit être content avec moi. Attends, vous êtes déjà quitté le. Vous êtes déjà à côté de la plaque. Donner votre vie pour d'autres personnes ne sauve personne. Mais ça peut être une évidence, et c'était pour lui un évident, le fait que c'était pas un amour charnel, ce n'était pas un amour qui en profite de cette personne parce que ça me rapporte psychiquement ou quoi. Il y a des gens qui sont des gens humanitaires purement parce que ça leur fait du bien. Mais ce n'est pas la justice de Dieu qui est en train de régner. Alors ça, c'est des choses qu'ils ne savaient même pas. Les personnes que nous venons de voir dans le verset précédent, ils étaient surpris de savoir que cette justice commandée était manifestée à travers des activités où il était entièrement inconscient. Et Dieu voit tout. Il n'y a rien que Dieu ne voit pas. Et puis, verset 10. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. J'ai mis les deux ensemble ici. Donc ça, c'était le 4 et le 5. Une tendance inquiétante, verset 10. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Vous ne vous relâcherez pas. Rappelez-vous quand nous étions en chapitre 2, verset 1er, où il leur avait donné un avertissement, il y a 3 chapitres maintenant. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher, pourquoi il faut que nous nous attachions, parce qu'on peut se détacher aux choses que nous avons entendues. La preuve, ça se fait tous les jours. De peur que, nous ne soyons emportés loin d'elle. Il est en train d'adresser toute la communauté, mais de dire, il est possible, il est peut-être probable qu'il y en a qui ne s'attachent plus. Enfin, ils se détachaient de plus en plus de choses qu'ils avaient entendues. Et ils sont emportés, et au bout d'un certain moment, tant pis, ils ne reviendraient jamais. Et il sera jugé, pas parce que Dieu ne lui permettra pas de revenir, mais parce qu'il n'aura jamais envie de revenir, sachant tout ce qu'il sait. Et si vous êtes troublé par ce passage, ça c'est bon signe. De être sûr de faire le bilan, de faire le point, pas de rester dans le terreur. Oui, de théoriser peut-être, afin que vous arrêtez de jouer avec le monde pour dire, oui, j'aime Dieu, mais j'aime ça aussi, puis je suis même pas précipité sur le précipice. Mais bon, je vais rester ici, mais pas trop loin, parce que j'aime ça, ce que j'entends, j'aime ce que je vois. Et puis, oui, ces personnes devraient être théorisées. Mais celui qui marche avec le Seigneur, et malgré ses chutes, et malgré malgré son désir de, malgré cette attraction parfois vers le monde qui nous arrive à chacun, ça c'est le combat de la foi jusqu'aux dernières minutes, de ramer contre courant, contre ma chair, contre le monde, contre le diable, et de ne jamais relâcher. Parce qu'il n'y a aucune chose dans une rivière qui coule d'arrêter de ramer et de rester dans la même place. On va toujours avec le courant. Signe de vie que nous avons la foi qui va persévérer jusqu'à la fin. Ces bras fatigués, je rame. Parce qu'aucune épreuve ne vous est survenue qui n'est humaine, mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bien évidence, la foi qui regarde dans l'avenir, avec une espérance implantée par l'Esprit Saint, qui maintenant trouve ces signaux de la parole de Dieu, qui mange de la parole de Dieu, qui boive de la parole de Dieu, et malgré ses chutes, qui l'angoisse, le brebis ne peut plus, comme le cochon, sauter dans la boue et vouloir rester. Une vraie brebis tombe dans la boue, mais il n'aime pas rester comme le cochon. Ça, c'est la différence entre les deux. Le cochon tombe dedans, il aime dedans. Il a du mal à sortir. Le brebis ne peut pas rester. Il peut tomber parce que ça donne l'impression. Et puis il tombe et chute, il tombe dur. Il ne peut pas rester longtemps parce que c'est contre sa nature. Oui, c'est... Ça va avec des traces d'une ancienne nature, mais c'est contre la nouvelle nature. Et la nouvelle nature est trop sensible pour être content de ça. Il y aura une lutte. Et il ne peut pas rester. Il n'est pas tranquille. Il n'est pas bien jusqu'à ce qu'il sorte. Donc, la dernière chose, une stratégie corrective. Ici. Imiter. Il va leur montrer beaucoup d'exemples de imitation plus loin. Mais imiter, au lieu de relâcher, imiter ceux qui, par la foi, la patience, reçoivent l'héritage promis. Le mot patience et le mot persévérance dans certaines traductions. Persévérance, la foi qui sauve et la persévérance qui retiennent sont inséparablement données comme un don de l'Esprit à celui qui met leur foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste un assentiment. Oui, je suis d'accord. Je suis croyant, mais attention, je serai un peu pratiquant, mais n'attendez pas trop. Mais oui, je crois. Non, ça n'est pas la foi qui sort. Il y a plein de gens comme ça. Dans cette église, peut-être. Mais la foi qui sauve est une foi qui est inséparablement liée à le don de persévérance, qui est la meilleure preuve. Jacques insiste sur ça, et l'apôtre aux Hébreux insiste sur ça. La meilleure évidence que je suis toujours chrétien après 45 ans de connaître le Seigneur, c'est parce que je suis toujours là, Oh, il y a des choses entre ces 40 ans que je rougis d'en penser. Mais je suis là. Et Dieu est en train quand même de travailler en moi. Et donc, mon assurance grandit, dissipe quand je suis en flagrant désobéissance. Pas pour longtemps, c'est pas possible. Parce que la nature de Christ en nous. Suivons les exemples. J'en ai mentionné que plusieurs. À partir de Abel, Noé, Enoch, le pré-ancien monde, avant la chute, et puis Abraham et Sarah et Moïse et David et Samuel et Barak et Jephthah et d'autres, Rachab, des personnes qui ne sont pas connues pour leur pureté de vie, mais pour leur foi qui leur a sauvé. Et ça, c'est ce que je vous laisse aujourd'hui, une assurance, une pleine assurance donnée à ceux qui sont dans la justice de Dieu, en train d'adorer Dieu de tout leur cœur, servir les frères et sœurs, et ils veulent être, cherchant pas des excuses pour ne pas être là dimanche. Quand j'étais enfant, la seule excuse pour ne pas être à l'église, dans ma famille, était la mort. Si je meurs, je suis permis de ne pas aller. Mais, malade ou pas malade, on était là. Ce n'est pas un point de piété pour moi, du tout. Parce que si j'étais mort à l'âge de 16 ans, je serais en train de brûler en enfer maintenant. N'ayant jamais loupé une seule dimanche, matin, soir, mercredi, réunion de prière, jamais loupé. Waouh, Robert, tu es quelqu'un. Dieu doit être content avec toi. Pas du tout. Ça ne sauve personne. Il y a plein, tout le monde peut faire ça. Les incrédules peuvent faire et font ça. Cherchant à mériter la justice, cherchant à faire de Dieu leur débiteur. Dieu n'est débiteur de personne. Il donne grâce à ceux qui croient.